Frères et sœurs, 50 jours après Pâques, les disciples, les fidèles d'entre les fidèles étaient réunis et voici que, par l'Esprit, ils furent en capacité de se faire comprendre auprès de tous les étrangers qui étaient là aujourd'hui. Un peu comme ces catéchumènes qui vont dérouler notre culte ce matin et qui vont vous faire entendre leur part de vérité, à vous qui n'êtes pas forcément des habitués de ce lieu, à vous qui n'avez pas forcément l'habitude de franchir les portes d'une église. Voilà, l'esprit, c'est lorsque nous avons la capacité de rejoindre l'autre dans son univers personnel, dans son intimité, lorsque nous arrivons à nous comprendre les uns les autres. Et aujourd'hui, en ce temps de Pentecôte, nous avons le plaisir d'accueillir Primrose, Raphaël, Alice, Yvan, Victor, Benjamin, auxquels nous allons reconnaître cette capacité de s'exprimer, cette capacité d'entrer en relation, cette capacité de parler à des personnes qu'ils ne comprennent pas, justement parce que nous considérons que vous êtes maintenant équipés pour cela, capables de vous lancer dans la vie d'adulte étant cette exploration des possibles. Bienvenue à vous, bienvenue à celles et ceux qui vous accompagnent, bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous dis que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, celui qui nous a montré ce que communiquer voulait dire. Levons-nous pour chanter Dieu avec le premier répond indiqué dans votre livret liturgique au début du psautier français. Bénissons Dieu le seul Seigneur. Benjamin nous conduit dans la louange.
Dieu, une voie, un but, une espérance, une vie, une rencontre, une croyance, un idéal. C'est en contemplant la beauté de la terre, cette création, que Dieu fait son apparition dans ma vie, qu'il me procure beaucoup de bonheur et d'épanouissement et me rend plus fort que les obstacles que je rencontre sur ma route. Dieu me fait avancer en cultivant mon humanité, par toutes ces paroles qui s'adressent à moi, qui m'accompagnent. Ainsi, je ne suis jamais seul. Amen.
Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 116b, l'harmonisation de Genève dans votre psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 7 du psaume 116. Prenons place pour entendre Yvan qui nous expose une expression de la volonté de Dieu.
Dieu donne du sens à la vie. Il nous aide dans l'aventure qui est la vie. Il nous appelle à vivre ensemble, à nous respecter, à nous comporter de telle manière que nous permettions à la vie d'exister. C'est ce que nous découvrons dans ces textes bibliques qui rassemblent l'expérience de ces générations de personnes qui se sont posées la question de la foi en Dieu. C'est ce que nous comprenons à travers ces textes qui nous font découvrir la part non physique de la vie.
Nous chantons le répond indiqué dans notre livret liturgique. Nous nous recueillons dans la prière avec Alice.
Il y a quelque chose de tellement orgueilleux dans le projet de dire « qui est Dieu ?» D'avoir foi en lui, de pouvoir lui rendre un culte. Faisons preuve d'humilité pour nous débarrasser des images qui réduisent Dieu, qui en font un personnage à notre image ou selon notre imagination. Laissons-nous gagner par son souffle de vie, laissons-nous atteindre par les regards bienveillants qui nous accompagnent tout au long de notre vie et qui sont autant de présences actives de Dieu envers nous. Viens toi-même à nous, Éternel. Amen.
Voici une réponse à notre prière proclamée par Victor.
Ce n'est pas la crainte qui doit nous pousser à écouter la parole de Dieu. Au contraire, c'est son amour désintéressé, sa grâce qui nous motive, qui nous pousse à penser et à agir. Dieu nous incite, par amour, à agir en bien pour notre prochain. Il permet ainsi de vivre une vie épanouie, en harmonie avec notre prochain.
Chantons. C'est Raphaël qui nous donne les mots pour exprimer notre foi.
Je crois en Dieu qui est naissance et vie jusque dans la mort. Il est le rythme de l'existence, sa véritable dimension, en toutes circonstances. Je crois en Dieu qui nous unit, nous et la multitude des hommes. Il n'est pas présent dans un lieu défini. Il n'est pas non plus limité à une personne. Il nous permet de nous interroger sur l'existence. Il relativise nos certitudes. Il donne de l'importance à ce que vivent les autres, mes prochains. Dieu est une question, ce qui nous permet de mettre et remettre en question chaque élément de notre vie. C'est ce qui rend ma vie active et intéressante. Amen.
Thank you.
prenons place. Frères et sœurs, nous avons donc la joie, l'insigne honneur d'accueillir ces jeunes pousses qui désormais font fleurs et fruits. Alors je vais vous inviter à nous rejoindre, Alice, Raphaël, Primrose, Yvan, Victor, Benjamin. Je sens que ma parole n'est pas tout à fait performative, mais en fait c'était une vraie invitation à nous rejoindre. À l'adolescence. Bien. Alors, nous avons la chance avec Marc d'avoir pu vous accompagner pendant quelques années, accompagné dans vos débuts par les moniteurs et les monitrices de l'école biblique. Et nous avons fait en sorte de vous donner les moyens, de vous donner les éléments et aussi de vous donner le désir de répondre à l'appel du Christ, cet appel à vivre selon l'espérance qu'il a manifestée et dont les évangiles nous rendent témoignage. Alors, vous avez suivi, on peut le dire, assez sérieusement et fidèlement l'instruction religieuse dispensée dans cette vénérable institution qu'est l'oratoire. Vous avez même assez souvent fait les devoirs qu'on vous proposait de faire. Non sans quelques protestations, mais c'est cela aussi qui est nécessaire pour devenir un bon parpaillot. Chaque jour, Dieu vous donnera, comme il l'a fait jusqu'à présent, la force de persévérer dans la foi et dans un beau cheminement. C'est une manière de dire que vous n'êtes pas seul sur le chemin de votre vie, qu'il y a autour de vous des personnes qui pourront vous aider à transcender votre cheminement personnel. Aller plus loin que ce que vos vœux et vos désirs vous engagent à faire et à accomplir. Ainsi, ce que nous nommons Dieu sera pour vous sujet de délivrance lorsqu'il y aura la tentation de la paresse, secours dans vos doutes, courage et courage d'être dans vos peurs, réconfort lors de vos souffrances. C'est la source de joie qui comble et qui comble toujours celles et ceux qui placent leur confiance dans cette vie divine. Aucune puissance au monde ne peut vous séparer de cet amour-là à manifester Jésus-Christ, c'est le cœur de notre foi. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a aussi vos parents qui vous ont accompagné jusque-là, vos parents qui sont là à nouveau, vos proches, vos amis. Il y a quelques émotions qui se dessinent sur leur visage et c'est assez heureux, profitez-en, vous ne les avez peut-être pas toujours vus dans ces conditions-là. Ils expriment ce qu'il y a de plus profond en eux, ce désir farouche de vous voir mener une vie portée à son incandescence, ce qu'on appelle la vie véritable, la vie authentique. Non pas simplement survivre, non pas simplement vivoter, mais pouvoir donner la démesure de tous ces talents dont ils ont été une grande source. Voilà, frères et sœurs, Dieu nous rappelle à la fois notre propre temps de transition entre l'âge d'adolescent et l'âge d'adulte. Il va y avoir aussi un baptême, cela nous rappelle notre propre baptême. Ces catéchumènes nous font aujourd'hui le cadeau de leur témoignage de foi. Ne laissons pas ce don sans effet qu'ils participent à nous faire avancer nous-mêmes. Et projetons-nous maintenant dans la dimension du baptême.
À la fin de l'évangile selon Matthieu, il y a un texte qui nous rappelle l'institution du baptême. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacune et pour chacun, et en particulier pour vous, chers catéchumènes. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alice, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors, chers catéchumènes, je vous propose d'entourer Alice qui va rejoindre le baptistère. Alice, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alice, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, dit l'Éternel, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Amen. Alice, tu as choisi d'exprimer une part de ta foi à partir d'un verset que tu as choisi et je te propose de nous en faire profiter maintenant.
Alors j'en ai choisi deux dans les Proverbes. Le premier au chapitre 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Et mon second est toujours dans les Proverbes, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère.
Raphaël, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
En communion avec tous les chrétiens de tous les pays, de tous les temps, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors tu as choisi toi aussi un passage de l'Écriture, un passage assez original. Qu'est-ce que tu as choisi donc et pourquoi tu nous as choisi ce verset ?
J'ai choisi un verset du livre de Samuel. L'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Je l'ai choisi car je trouve qu'il définit bien le comportement humain. La plupart des hommes ne se font une opinion sur quelqu'un qu'en se basant sur son apparence. J'apprécie ce verset car je trouve qu'il est plutôt vrai. C'est pourquoi je veux vous en faire part. Il nous pousse à ne pas juger selon l'apparence. Ne regardez pas à ce qui frappe les yeux, mais apprenez à connaître les gens et à être meilleur. Regardez au cœur.
Raphaël, Dieu te conduira sur le chemin de la vie, de ta propre vie, dans la liberté, dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Alors c'est vrai qu'à travers ce verset, donc, qui est dans le récit de David, quand David est choisi comme roi, tu nous proposes une théologie, une éthique essentielle qui permet de considérer Dieu avec confiance, qui regarde vraiment l'intérieur, qui ne nous juge pas selon la performance, de regarder notre propre vie, de regarder les autres, et puis d'avancer ainsi dans le monde avec une force tranquille et joyeuse. Merci beaucoup.
Primrose, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui. Jésus-Christ est le Seigneur.
Primrose, Dieu te conduira sur ce chemin de vie, ce chemin d'espérance, pour mener ta vie à son plein accomplissement. Amen. À toi aussi de nous faire partager ce que tu as retenu en matière de versets bibliques.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux.
D'où est tiré ce passage biblique ? Petite question de catéchisme. C'est le psaume 92. Avec Marc, nous proposons des initiations théologiques pour raviver les souvenirs d'autrefois. Reprise début novembre. Publicité gratuite.
Yvan, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
En communion avec tous les chrétiens de tous les temps, de tous les pays, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est vrai que c'est un peu ce qui rassemble tous les chrétiens, mais on peut se l'approprier de différentes façons. Alors tu as choisi trois versets pour dire un peu voilà, ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ta foi.
Donc le premier que j'ai choisi est « Marchera-t-on un jour sur les braises sans que nos pieds soient brûlés ?» Donc je l'ai pris pour exprimer ma confiance en Dieu qui va me permettre d'affronter les difficultés de la vie avec moins de crainte et d'appréhension. Le deuxième est « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. » Celui-ci montre que ma réflexion sur l'existence de Dieu m'apporte la sagesse de plus en plus grandissante au fil de la vie. Le dernier est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lampe sur mon sentier. » Grâce à ce verset, donc, je déclare tout l'amour que j'ai à l'égard de Dieu et le remercie pour la lumière spirituelle qu'il me donne.
Yvan, Dieu t'accompagnera sur le chemin de ta vie avec son amour, avec une force qui vient de sa parole et puis avec tous les dons de l'Esprit qui donne sagesse et force. Alors tu as choisi donc trois versets. Le premier dit l'amour de Dieu pour toi, pour le monde, pour les autres, et sa force affonde une confiance. Le deuxième, c'est cette sagesse que donne l'Esprit, que donne Dieu, la réflexion aussi qui est importante. Et le troisième, la louange, c'est-à-dire la reconnaissance de cet amour de Dieu en aimant Dieu. Donc là, je crois que vraiment tu nous proposes un parcours complet, voilà, en trois versets et un catéchisme pour nous tous. Merci.
Benjamin, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Benjamin, l'Éternel t'accompagne tout au long de ce cheminement spirituel qui te mène vers une vie accomplie, vers une pleine humanité. Amen. Alors, fais-nous partager aussi ce qui a été pour toi un élément biblique particulièrement important à tes yeux.
J'ai choisi le verset Jean 3, verset 16. « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Si tu veux nous en dire un peu plus sur ce verset.
Ce verset exprime tout l'amour que Dieu a pour moi et tous les autres humains. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions le rejoindre après notre vie terrestre. Aujourd'hui, je peux enfin dire que je crois en Dieu et à sa création. Il me témoigne chaque jour de son amour inconditionnel, ce qui ne me laisse pas indifférent. Maintenant, je sais que ma place sera aux côtés de Dieu.
Ça valait quand même le coup d'en profiter. Merci.
Victor, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec tous les chrétiens, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors, tu as choisi un passage d'une lettre de Paul pour dire un peu quelle est cette foi dont tu veux témoigner.
Dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et bonne réputation, tenu pour imposteur et pourtant véridique, inconnu et pourtant bien connu, moribond et voici nous vivons, châtié sans être exécuté, attristé mais toujours joyeux, pauvre et faisant bien des riches, n'ayant rien, nous qui pourtant possédons tout.
Alors, c'est vrai que ce verset propose un retournement de situation qu'on retrouve souvent dans l'Évangile. Est-ce que tu voulais dire quelques mots sur... Non ? D'accord. Eh bien, c'est vrai que le verset est déjà parlant, ce retournement de l'Évangile qui permet d'avoir une intelligence de la situation et qui nous envoie dans le monde porteur de cette subversion, finalement, que propose l'Évangile. Victor, Dieu t'accompagnera sur le chemin de ta vie avec cette force, avec cette puissance de transformation qu'il apporte dans le monde. Et tu en seras, voilà, un envoyé dans le monde, porteur de cette force. Merci. Catéchumène, on propose, voilà, pour que la confirmation, le baptême, soit plus le début d'un cheminement, nous proposons des engagements qui marquent, voilà, un prolongement de ce moment. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur, et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en fidèle du Christ, en aimant Dieu de tout votre cœur et en aimant votre prochain, sans oublier de vous aimer un peu vous-même aussi? Est-ce là ce que vous désirez? Toute la vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible, la prière, le culte, la communion, le débat entre nous, sont des moyens que Dieu vous donne de persévérer dans la foi que vous venez de confesser, pour être fidèle donc à ce chemin que vous avez choisi aujourd'hui.
Vous avez reçu le baptême, vous avez entendu la confirmation de la grâce qui avait été exprimée lors de votre baptême, reçue dans votre tendre enfance. Signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, eh bien cette grâce vous est confirmée à jamais. Nous vous recevons avec grande joie dans cette Église qui n'est que l'un des visages de l'Église invisible, cette Église universelle que nous sommes appelés à former tous ensemble, même avec celles et ceux que nous ne connaissons pas encore. Vous avez désormais votre place entière, aussi bien à cette table du Seigneur où vous partagerez le repas avec nous tout à l'heure et vous serez même nos diacres en quelque sorte. Vous avez part au travail de cette Église, nous vous reconnaissons comme membre à part entière, nous vous reconnaissons comme adulte dans la foi. Et quand nous vous disons que le Saint-Esprit affermit votre foi, qu'il vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour, nous vous disons à quel point nous vous reconnaissons capable de pouvoir porter, de pouvoir accomplir, de pouvoir incarner ce que l'Évangile nous invite à vivre. Nous allons nous réjouir grâce au chœur de l'oratoire, le chœur qui va nous interpréter un Sanctus. Alors, le Sanctus, c'est déclarer à quel point Dieu est trois fois saint, Dieu de l'univers, que le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, une occasion de crier « Hosanna » au plus haut des cieux. Et c'est en fait un extrait du Requiem du Britannique Malcolm Archer, qui a été composé en 1992, un extrait d'un concert que le chœur nous donnera, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et la soprano solo est Elisabeth Amnon, que nous avons donc le plaisir d'accueillir. Et pendant ce temps-là, nous allons nous réjouir avec vous, chers catéchumènes. Je vais vous lire un passage biblique qui raconte les effets de Pentecôte. Vous connaissez l'esprit qui anime les disciples qui deviennent apôtres à l'occasion de la Pentecôte. Et voici en quelque sorte les effets secondaires de l'événement de Pentecôte. C'est au chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Je vais vous lire les versets 1 à 10. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, de chanter au cantique 297. Les strophes 1, 3 et 4 de ce cantique 297. La Bible nous rapproche de toi, Éternel, à travers le témoignage de personnes qui ont reconnu ta présence active. Ouvre maintenant notre esprit pour que nous entendions un écho de ta parole dans ces mots de la Bible que nous avons lus. Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, qu'est-ce que la vie ? Eh bien, la vie, c'est un jeu de cartes. La vie, c'est un jeu de 54 cartes. 52 cartes. La vie, c'est 52 semaines chaque année, autant de cartes qui se regroupe en quatre saisons, quatre couleurs. Et chaque année, ça recommence. La vie est un jeu de cartes. Et si nous utilisions un calendrier lunaire, alors, la vie, ce serait 13 mois, autant que de cartes dans une seule couleur, et ce serait 13 mois de 28 jours, le cycle de la vie. La vie, c'est peut-être une année de 13 mois. La vie est un jeu de cartes dont la somme d'une couleur est de 91 points, comme dans le jeu de tarot, un jeu utilisé par certains pour dire la vie. La vie, c'est une succession de coups de bluff, parfois de belotes et de rebelotes, souvent des batailles, ouvertes, fermées, pas toujours très corses. La vie est un jeu de cartes aux combinaisons déterminées. Il y a un nombre fini de possibilités. C'est possible de mettre la vie en schéma de ce point de vue-là. De ce coup, la vie en tant que jeu de cartes est quelque chose d'assez déterminé. Un peu comme la vie de cet homme qui, chaque jour, est porté à la belle porte du temple, inlassablement, perpétuellement, une sorte de jour sans fin. Un homme qui a manifestement des problèmes de cheville et que l'on porte et que l'on installe. Oh, pas dans le temple, à l'extérieur du temple, parce qu'étant handicapé, infirme, il est impur, impropre au culte, impropre pour aller au cœur du centre religieux de l'époque. Il n'a même pas le droit d'accéder au parvis des femmes, c'est vous dire s'il est impur, puisque la belle porte est ce qui donne accès au parvis des femmes. Pour lui, c'est un jour sans fin, un recommencement à perpétuité. La vie, donc, est un jeu de cartes. Du moins, peut-elle n'être que cela. La vie n'est qu'un jeu de cartes pour ceux qui se contentent de cela, pour ceux qui ne se posent pas beaucoup de questions, contrairement à nos catéchumènes qui ont répété à l'envi que Dieu était source de questionnement. Mais pour certains, la question n'est plus. La vie n'est plus qu'un jeu de cartes. Alors, dans ce cas, la vie, effectivement, est limitée à ce que certains peuvent penser. La vie, 52 semaines de 7 jours. Ou encore, une année de 13 mois de 28 jours. Et comme je vous l'ai dit, une saison, une couleur valant 91 points, 4 saisons de 91 jours. Je vous épargne le calcul, 52 fois 7, c'est égal à 13 mois fois 28, c'est égal à 91 jours fois 4 saisons, c'est égal à 364. 364 jours ! Voilà l'année de ceux qui considèrent que la vie n'est qu'un jeu de cartes. Ceux qui ne s'interrogent pas, ceux qui ne remettent pas en question les données qui sont les nôtres, ceux qui ne se posent aucune question sur la manière de vivre, qui ne se posent pas de questions sur les institutions, sur les dogmes, sur les enseignements depuis toujours, ceux qui acceptent les choses en l'état, ceux qui acceptent les déterminismes, ceux qui acceptent la vie qui se présente sous forme de schéma auquel il faudrait se soumettre, ceux qui avalent gentiment les couleuvres qui ont été préparées par d'autres. Seulement voilà, dans ce cas, la vie n'est pas toute la vie. C'est une vie en sous-régime. C'est une vie dont les années ne font que 364 jours. Heureusement. Heureusement, il y a le Joker. De l'or, mes seigneurs, voilà ce que réclame l'homme assis à la belle porte. De l'or, mes seigneurs, entretenez-moi dans ma condition d'infirme. Mais le Joker est là. Un Joker qui ne rentre pas dans la combine, qui ne rentre pas dans ce schéma, qui dit « je n'ai ni or, ni argent ». Moyennant quoi, n'ayant pas d'or, il ne fera pas de veau d'or, comme autrefois à Aaron, qui, pour entrer dans le temple, pour accéder à Dieu, avait pris l'or de la main du peuple hébreu, qui n'arrivait plus à avancer dans le désert, justement. Savez-vous qu'en hébreu, le mot qui signifie la main, yad, a la même valeur numérique que le mot qui signifie l'or, zahav, 14. Mais le joker n'a aucune valeur. Il les a donc toutes, et c'est ce qui fait son intérêt. Pour avoir la bonne valeur au bon moment, il y a le joker. Pas de veau d'or pour les apôtres, autrement dit, pas d'idolâtrie, pas de pensée figée, pas de certitude gravée dans le marbre, mais ce qu'ils ont, ils le donnent, le joker. Le joker, Jésus, qui n'a jamais considéré que l'habit faisait le moine, ou qu'il était possible d'avoir un avis définitif sur les choses, les personnes, les situations. Ici, le joker entaille la réalité figée sur laquelle tout le monde s'accorde pour faire un peu de place au réel. Oh oui, celui-là n'est qu'un infirme, il n'a donc pas sa place parmi nous dans le temple sacré, là où est la vraie vie. Ah bon, et pourquoi donc ? Moi, je peux vous montrer que cet homme est un homme authentique, dit le joker. Le joker, Jésus qui a passé son temps à faire des rencontres qui lui permettaient de révéler la nature profonde des personnes, qui valaient bien plus que la réputation qu'on leur collait sur le dos. Le joker entaille la réalité figée. Il entaille les certitudes, il bouscule les définitions. Car derrière l'apparence du mendiant se cache un homme pour le moment encore un peu difforme peut-être, mais ce n'est pas un sous-homme, c'est un homme en devenir. Il est encore à l'adolescence de sa vie. Ça va s'arranger. Il n'a pas fini sa croissance, voilà tout. Les parents n'ont pas encore besoin d'être trop inquiets. Personne ne sait cela. Tout le monde ne voit qu'un infirme, un impotent, un boiteux. Mais les disciples du joker voient plus que cela. Ils ne s'arrêtent pas à la surface des choses. Tout le monde pense qu'il n'est que cette chose que l'on transporte, ou que ce que les uns et les autres veulent bien voir. Mais Pierre et Jean ont été à bonne école, ils ont fait leur catéchisme auprès du joker Jésus, le Nazoréen, et ce joker a suscité chez eux la passion de la vie, le goût des autres, une soif inextinguible de découvrir la véritable humanité qui se cache derrière celles et ceux que nous rencontrons. Ils ne se laissent pas impressionner par la réputation, par le « on dit que », ils ne se laissent pas impressionner par les postures. Ils savent que nul n'est figé à une valeur, c'est le joker qui les a toutes, qui le leur a montré. Ils savent que la valeur des institutions est relative. Ils savent la valeur relative aussi des statuts sociaux, des fonctions, des places qu'on occupe. La preuve, vous qui êtes de petits bouts de choux encore, vous pouvez être au centre du temple, alors que vous êtes presque sans apparence les uns et les autres. Vous n'avez pas encore bien fait vos preuves. Vous n'avez même pas votre bac. L'esprit de Pentecôte, c'est ce qui rend possible cela. Le fait de voir les individus sous leur véritable personnalité et pas simplement sous l'apparence qu'on leur a collée. Et du coup, le joker casse la vie étriquée. Il casse les étiquettes, du moins il les déchire. Il casse les cases dans lesquelles on enferme les uns et les autres. Et Pierre et Jean font comprendre à cet homme-là, qui a été déposé comme une marchandise, qu'il n'est pas un bon à rien, et il l'autorise à marcher. Lui, l'infirme informe, a en effet les chevilles fermes contre toute espérance, aussi fermes que celles des Hébreux traversant le Jourdain pour entrer en terre promise. Relisez Josué. Ils sont entrés de pied ferme, dit le texte, avec une même racine grecque. Le joker aura donc permis à l'exclu de faire son entrée dans la terre qui ne lui était pas permise à cause des joueurs de cartes à qui il manque un jour, le bon jour, le jour de l'éternel, le jour du joker, le premier jour du reste de ta vie. Le joker décoince la vie, il la décoince à l'infini, il décoince son jeu. C'est le premier point que je voulais retenir. Le joker rompt la pensée figée. Deuxième point, le joker brise aussi les lignes de démarcation. Regardez bien ce que fait Pierre, dont certains disent qu'il serait le premier pape. Il prend la main de l'homme infirme et donc impur. Et il est d'autant plus impur que c'est un infracteur. En effet, il était chaque jour porté puis installé à une porte de l'enceinte du parvis du temple. Ça signifie qu'il l'était même le jour du Shabbat. Et ça, c'est mal. On ne porte rien le jour du Shabbat. c'est interdit. C'est à cet homme que Pierre donne la main, à ce hors-la-loi. Alors nous pourrions y voir les prémices de la justice restaurative. Nous pouvons y voir, à tout le moins, une transgression des frontières religieuses de l'époque. Car le joker n'a que faire des frontières. Il n'a que faire des limites qui parquent les hommes comme le bétail. En faisant accéder l'homme jusqu'à la colonnade, là où Jésus enseignait, Pierre et Jean jouent leur joker. Ils se moquent des conventions, ces conventions qui sont en fait les véritables handicaps des personnes. Bien des règles, bien des conventions, bien des lois sont absolument nécessaires pour assurer le vivre ensemble. Ce sont même les conditions indispensables pour créer une forme d'harmonie, pour que nous puissions ne pas nous entre-déchirer les uns les autres. Jusqu'au moment où ces conventions portent atteinte à la dignité de l'individu, jusqu'au moment où elles écrasent l'humanité, où elles empêchent à notre humanité de s'exprimer. D'ailleurs, plutôt que de dire que l'homme entre dans l'enceinte du temple, nous pourrions dire que c'est le temple qui s'élargit jusqu'à lui. Oui, bien sûr, l'homme a été profondément transformé, il a changé son regard sur lui, il a pris confiance en lui. Le joker a mis un peu de jeu dans son existence et il a repris la main du jeu. Mais il faut voir aussi que la règle du temple a changé. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'intérieur du temple vont le reconnaître, c'est bien la même personne qu'il y a 5 minutes auparavant, mais ils changent de regard sur cette personne. Ils l'accueillent comme l'un des leurs. La règle du temple change. Pierre et Jean manifestent que les critères d'accès au temple de l'époque sont caducs. Ils montrent que les discours sur le pur et l'impur, sur le digne et l'indigne, sur ceux qui entrent et ceux qui restent dehors, sont caduques. Les lignes bougent. Et ça, c'est l'enseignement du joker, qui, n'ayant aucune couleur, les a toutes. Il peut être faible avec les faibles, sans loi avec les sans loi, juif avec les juifs, chômeur avec les chômeurs, catéchumène avec les catéchumènes. Il se fait tout à tous, selon la formule de l'apôtre Paul. L'évêque John Shelby Spong nous le disait mercredi soir. Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens, au sens d'individus qui seraient inféodés à une chapelle particulière. Le joker casse les murs de séparation. Il franchit les frontières qui divisent. Il transgresse les clivages. Cela signifie que ni le baptême, ni la confirmation à l'oratoire ne font de vous des prisonniers de l'oratoire. Je ne vous recommande pas trop de prendre vos aises et trop de liberté. Mais vous n'êtes pas condamné à perpétuité à être oratorien. Mettez-le sur votre curriculum vitae, c'est pas mal. Mais en fait, vous restez tout à fait libre. Ce n'est ici qu'un point d'étape. La foi chrétienne est bien plus vaste que cela. Bien plus vaste que ce beau lieu, bien plus vaste que notre institution nationale, bien plus vaste que l'Alliance réformée mondiale, bien plus vaste que le christianisme international, bien plus vaste que toutes les formes de religion. Être chrétien, être disciple de Jésus, être disciple du joker, c'est être profondément humain dans tous les domaines de notre vie, sans ces fichues barrières qui bloquent toujours la progression des honnêtes hommes. Quand vous serez aux responsabilités, c'est dans bientôt, une dizaine d'années. Vous commencerez à faire des recrutements, là. Bon, peut-être 15 ans. Ne soyez pas trop fascinés par les diplômes ou l'absence de diplômes des personnes que vous recruterez. Soyez pas trop sidérés par un casier judiciaire vierge ou qui ne l'est plus. Soyez pas trop impressionnés par les titres de gloire en pagaille. Quant au délit de faciès, Vous vous efforcerez de vous rappeler que l'infirme qui se tenait à la belle porte ne devait pas être très beau à voir avant que le Joker fasse son œuvre et attire tous les regards sur cet homme remis debout, ressuscité, existant, existant. C'est ce que dit le texte grec. Car bien entendu, vous avez désormais un rôle éminemment actif qui tranche sévèrement au fait que vous soyez actuellement assis, les jambes croisées, les bras croisés, le regard quasiment baissé vers le sol.
Il y aura encore quelques résurrections à entreprendre.
Mais le Joker est là. Et on vous attend au tournant. C'est ce que nous avons exprimé tout à l'heure au moment du baptême, de la confirmation, en vous accueillant comme membre de cette Église qui n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes, qui n'est pas là pour servir la soupe réchauffée, qui est là pour exalter la vie. Non seulement le Joker ressuscite en nous l'humanité abîmée, elle redresse le torse, le bombe, ramène le sourire sur les visages, ouvre les mains serrées, mais le Joker nous rend capables d'être agents de la résurrection. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais que vos parents avaient une forme d'émotions sensibles, palpables sur leurs visages, leurs attitudes. Cela montre que vous êtes capable de ressusciter. Vous êtes capable de ressusciter du désir, de la passion. Vous êtes capable de mettre en mouvement, c'est ça l'émotion. Pierre et Jean ont pris la succession de Jésus et cet homme qui jusque-là était infirme se met à son tour à faire le joker. Il passe de statut d'infirme à statut de joker, puisqu'il provoque une émotion chez ceux qui le voient. Les gens sont comme désorientés, et ça c'est une bonne nouvelle. Quand vous disiez que Dieu est source de questions, que Dieu nous interroge, on peut dire que Dieu désoriente. Là où certains voudraient que Dieu, la religion, ce soit du balisage, une topographie exacte du terrain, Dieu est aussi ce qui désoriente, c'est-à-dire ce qui nous permet de prendre une nouvelle orientation, peut-être une orientation meilleure, car on ne peut prendre la bonne orientation qu'à la condition de pouvoir se tromper de chemin aussi. Elle est là, la véritable liberté. C'était déjà le cas à Pentecôte. Les gens étaient hors d'eux-mêmes, désorientés. Eh bien, ça recommence ici. Ça recommence à chaque fois que le Joker montre le bout de son nez. Un nouveau départ est possible. Ajouter un jour à son existence. Ajouter de la vie à la vie. Voilà ce dont vous êtes capable. Peut-être partir à l'étranger, je veux dire au-delà du périphérique. Peut-être un nouveau travail. Peut-être un autre loisir. Peut-être une nouvelle coupe de cheveux. Qu'importe, nous ne sommes pas condamné à l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous avons le droit de nous métamorphoser. L'Évangile parle de transfiguration. Et le Joker nous permet d'agir en faisant une place dans notre vie. Des fois, nous sommes comme coincés, bloqués. On a l'impression que si nous bougeons quelque chose, tout s'effondre. Non. Le Joker fait un peu de place pour que nous puissions justement faire un pas de plus, peut-être un pas de côté, un pas de travers. Et un pas de travers, ce n'est pas forcément négatif. Là où tout était bloqué, là où l'homme était bloqué à la porte, coincé, comme les Hébreux, bloqués dans leur chemin de liberté dans le désert, eh bien il introduit une nouvelle possibilité, un nouvel espace de liberté. Il introduit de nouveaux défis à relever. Ce qu'en mécanique, on appelle du jeu, justement. Le Joker met du jeu. Le divin ajoute de la vie à la vie. Si je recontextualise, peut-être d'une manière plus personnelle, le Joker nous offre un D-Day, un jour de la décision. Ce que d'autres appelleraient la conversion, que certains peuvent identifier à l'heure près, c'est ce moment où l'on se projette en avant. La décision qui fait que notre vie ne reste plus semblable à elle-même. Prendre la décision de vivre, prendre la décision de ne pas subir, prendre la décision de ne plus traîner la patte, comme cet homme, donner toute sa démesure, faire comme David auprès de l'Arche, dans le livre de Samuel, exulter de tout son corps, de tout son être. « Je danse, donc je suis », disait Rabbi Naaman de Breslav. Le joker crée du mouvement, une dynamique, une chorégraphie de la vie. Une chorégraphie qui transcende toutes les postures, qui transcende les conventions, qui transcende les situations enkystées. La foi chrétienne, c'est d'abord cela, un attachement viscéral au fait que des jokers traversent l'histoire pour que les hommes ne s'assoupissent pas dans leur certitude. Nous vous avons pris par la main, peut-être même par les deux mains. Nous avons pris de toutes parts. Nous avons amené au cœur de ce temple. Vous avez reçu l'équipement nécessaire pour être à votre tour un joker. Alors, à vous de jouer maintenant. Yallah. Un peu de douceur, bienvenue grâce à notre organiste Jean-Dominique Pasquet. Avant de se relancer dans la bataille avec le cantique 417, vous l'aurez compris, ce sont les catéchumènes qui ont composé toute la liturgie, qui ont écrit les textes, ce sont aussi eux qui ont choisi les cantiques, mais je suis bien content qu'ils aient choisi « Debout Sainte Cohorte », un cantique à chanter avec vigueur et gorge déployée, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you. Prenons place. Vous avez la reconnu, ce cantique, hein ? Chère catéchumène, lors de sa dernière leçon à la faculté de théologie protestante de Paris, le professeur Jacques-Noël Pérez disait qu'on ne donne pas de la viande hachée au lion. Nous sommes efforcés de ne vous donner ni soupe réchauffée, ni viande hachée. C'est donc pas maintenant que nous allons continuer. Pour vous accompagner sur la suite de votre catéchèse qui, je ne vous l'avais peut-être pas encore dit, mais ça ne s'arrête jamais, hein. La quête spirituelle, c'est à l'infini. Nous avons profité de la venue de l'évêque John Shelby Spong pour qu'il vous laisse un petit souvenir de son passage et qu'il vous donne l'occasion de poursuivre votre propre réflexion. Donc, Jésus pour les non-religieux, Jésus pour le 21e siècle, qui est l'ouvrage disponible aussi au comptoir librairie pour ceux qui ne sont pas catéchumènes et confirmants aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous les remettre. On va commencer par Raphaël.
Là, c'est pour Benjamin, en fait. Donc, Jésus pour le 21e siècle.
Primrose. Oui, il y en a un pour chacun, de toute façon. Hein. Ça prend une surprise. Bonne lecture.
Pour Alice.
Yvon.
T'as deviné que c'était à toi. Pour Victor.
Quelques informations à partager le temps que notre chef de chœur, Fabien Aubé, vienne jusqu'ici nous parler du concert à venir. Vous dire que la répétition du chœur se tient le jeudi. Le lendemain, vendredi, de 12h30 à 13h30, il y aura une heure musicale, donc de l'orgue. Voilà, vous pouvez venir informer les personnes qu'elles trouveront le temple ouvert et qu'un organiste proposera une heure musicale pendant une heure. Et le lendemain, samedi, le groupe d'hébreux bibliques animé par Gilles Castelnau, c'est à 10h. Enfin, dimanche prochain, notre culte dominical présidé par Marc, et ce sera l'occasion pour tous les enfants de l'école biblique du catéchisme et leurs parents d'une sortie familiale. Tout commence ici même à 10h30 avec le culte. Ensuite, il y aura un pique-nique pour les familles, probablement aux Tuileries, et une activité qui a été préparée avec les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, qui nous conduira jusqu'à 16h. Voilà, donc inscrivez bien cela dans vos tablettes et prévoyez cela. Fabien, je te laisse la parole.
Merci. Bonjour à tous. Et donc, en effet, le concert du chœur de l'oratoire aura lieu le 26 juin, jeudi 26 juin à 20h ici même. C'est le fruit du travail de toute l'année. C'est un répertoire uniquement anglais qui met en regard deux œuvres. Une œuvre ancienne, baroque, de Henri Purcell, assez connue, la musique pour les funérailles de la Reine Marie. Et aussi pour faire découvrir un petit peu d'autres compositeurs, comme vous avez eu l'occasion d'entendre lors du culte, le Requiem de Malcolm Archer, qui est un requiem qui m'a beaucoup intéressé, déjà parce qu'il a été composé pour chœur et orgue, et je voulais justement faire une œuvre qui mette en valeur et le chœur et notre organiste, Jean-Dominique, qui nous accompagnera pour ce concert. Et c'est un requiem aussi intéressant, car c'était pas une commande, c'était vraiment un souhait du compositeur, assez intérieur et assez intime, de vouloir créer un requiem avec des textes qui lui parlaient, avec toute son émotion et tout ce qui pouvait le toucher. Donc ce compositeur Malcolm Archer est très reconnu en Angleterre pour sa musique sacrée. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a voulu faire pour une fois, non pas pour un office où il était, non pas pour une commande pour telle ou telle cathédrale en Angleterre, mais pour lui. Et c'était pour faire partager aussi cette œuvre que je trouve très jolie, qui est très, je trouve, assez ressemblante au Requiem de Fauré, qui est donc une œuvre qui est assez légère et qui très apaisante, je trouve. Voilà, donc au plaisir de vous voir le jeudi 26 juin à 20h. Et donc, dernière petite annonce, ce concert sera suivi d'une rencontre et d'un pot de l'amitié pour pouvoir échanger avec nous, avec les choristes, avec les solistes qui seront là, avec Jean-Dominique. Si par exemple vous voulez nous rejoindre pour la saison prochaine, vous êtes les bienvenus. Merci.
Un grand merci, Fabien. Et donc, vous aurez l'occasion de prendre les petits papiers pour communiquer autour de vous. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, mettez ce que vous aviez prévu et pensez aussi au joker. Si vous n'avez ni or, ni argent, pas de chéquier, que vous avez juste une carte bleue, sachez que nous avons aussi un terminal de paiement électronique à votre disposition.
Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce pour la gloire de la création et pour ton amour. C'est pourquoi avec tous les chrétiens dans leur diversité, avec la grande nuée des témoins de toute génération, en une joie commune, nous te rendons gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa lumière. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà comment l'Évangile rapporte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacune et pour chacun. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Nous nous unissons dans la prière. Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider. Voici nos cœurs mal préparés, nos prières insuffisantes, notre foi si peu active. Donne-nous dans ce repas ton pardon, ta présence, ta paix. Veuille, par l'action de ton Saint-Esprit, nous permettre de vivre ce temps comme une communion avec toi et avec chacun de ceux qui constituent cette assemblée et ceux qui sont au loin. Comme la nourriture fortifie le corps, comme le vin réjouit l'esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce vin, la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Et avec Jésus, nous te disons, en nous levant, dans la posture des ressuscités, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt.
Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacune et pour chacun. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité.
L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose que je recherche par-dessus tout, habiter toute ma vie dans sa présence pour contempler la merveille qu'est l'Éternel, et pour admirer sa présence à mes côtés. Il me protège en sa présence au jour du malheur. Il me cache dans l'abri de sa tente. Il m'élève sur un rocher solide. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de tout ce qui me tirait vers le bas. J'offrirai ma prière en sa présence. J'offrirai ma prière de louange. Je chanterai, je prierai en l'honneur de l'Éternel.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans cette espérance révélée par le Seigneur ressuscité. Amen. Merci pour la simplicité de ce repas. Merci pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice et d'amour. Amen. En sortant de ce temple, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'embrasser, de donner l'accolade à nos catéchumènes. Et puis ensuite, vous pourrez repartir chez vous en passant par la case scoutisme, puisque vous aurez la possibilité d'acheter quelques gourmandises, quelques gâteaux qui vous ont été préparés pour les scouts, ce qui permet de financer leur équipement pour le camp cet été. Et maintenant, nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu prononcée par Primrose.
Dieu bénit chacun d'entre nous, que nous soyons paroissiens ou venus aujourd'hui pour écouter ce culte et nous entourer. Par la force de l'Esprit, il affermit notre foi, nous apporte la joie, l'espérance et la paix. Amen.
On va là-bas.